At the conclusion of Elder Bednar's remarks,
après le discours de Frère Bednar, l'assemblée chantera Choose the Right. Ensuite, Artella Williams fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de présenter l'orateur de ce soir. David Bednar a été ordonné, mis à part comme membre du Collège des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le 7 octobre 2004. Avant son appel au Collège des 12, il a été 70 d'interrégion, autorité interrégionale, représentant régional, deux fois président de Pieux et évêque. Il est né le 15 juin 1952 à Oakland, Californie. Il a fait une mission à plein temps dans le sud de l'Allemagne, puis a fait ses études à l'université Brigham Young, où il a obtenu une licence et une maîtrise. Il a également obtenu un doctorat en psychologie organisationnelle de l'université Purdue. Après avoir terminé ses études, il a été professeur de gestion à l'université technique du Texas et à l'université d'Arkansas. Il a ensuite été président de l'université Brigham Young Idaho de 1997 à 2004. Il a épousé Susan K. Robinson dans le temple de Salt Lake City le 20 mars 1975 et ils ont trois fils.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, je vous aime. Et je suis reconnaissant d'être parmi vous ce soir. J'adresse une bienvenue spéciale à ceux d'entre vous qui sont en dernière année de séminaire et qui assistent à une émission du DEE pour la première fois. Dans la poursuite de votre instruction, je vous recommande de tirer pleinement avantage des occasions que vous aurez d'apprendre et de progresser spirituellement en vous inscrivant et en participant activement aux cours d'institut. Vous aurez aussi la possibilité d'assister aux prochaines veillées du DE qui vous fortifieront et vous béniront. Dans la perspective de cette occasion d'apprendre avec vous et au cours de ma préparation à cet effet, je suis parvenu à une meilleure compréhension des sentiments profonds de Jacob, le frère de Néphi. Il a dit, « Je suis aujourd'hui accablé d'un désir et d'une inquiétude beaucoup plus grand pour le bien-être de votre âme. » Le message que je vais vous donner aujourd'hui, c'est distiller avec le temps sur mon âme comme la rosée des cieux. Je vous invite à prêter attentivement attention à un sujet grave dont les implications sont à la fois immédiates et éternelles. Je prie pour que le Saint-Esprit soit en chacun de nous et nous instruise durant les temps que nous allons passer ensemble. De longue date, j'ai été impressionné par la définition simple et claire de la vérité énoncée dans le livre de Mormon. L'Esprit dit la vérité et ne ment pas. C'est pourquoi il parle des choses telles qu'elles sont réellement et des choses telles qu'elles seront réellement. C'est pourquoi ces choses nous sont manifestées clairement pour le salut de notre âme. Ce soir, nous allons nous concentrer sur le premier élément principal de la vérité indiqué dans ce verset, les choses telles qu'elles sont réellement. Nous allons premièrement voir quelques éléments clés du plan de bonheur de notre Père Céleste qui sont le fondement doctrinal permettant de connaître et comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Ensuite, nous examinerons les méthodes d'attaque que l'adversaire utilise pour nous distraire ou inhiber notre capacité de discerner les choses telles qu'elles sont réellement. Pour finir, nous évoquerons les responsabilités qui reposent sur vos épaules, vous qui êtes la génération montante. Il vous faudra être obéissant, respecter des alliances sacrées et discerner systématiquement les choses telles qu'elles sont réellement dans le monde d'aujourd'hui qui est de plus en plus troublé et méchant. Dans la famille, déclaration au monde, la première présidence et le collège des 12 apôtres ont déclaré qu'en tant que fils et filles d'Esprit de Dieu, nous avons accepté son plan selon lequel ses enfants pourraient obtenir un corps physique et acquérir de l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte notre destinée divine en héritant la vie éternelle. Frères et sœurs, veuillez remarquer l'importance fondamentale de l'obtention d'un corps physique dans le processus de réalisation de notre destinée divine. Joseph Smith, le prophète, a enseigné avec clarté l'importance de notre corps physique. Je cite, « Nous sommes venus sur terre afin d'avoir un corps et de le présenter pur devant Dieu au royaume céleste. » Le grand principe du bonheur consiste à avoir un corps. Le diable n'en a pas, et c'est en cela qu'il est puni. Il est content quand il peut posséder le tabernacle de l'homme. Et quand il en a été chassé par le Sauveur, il a demandé à aller dans un troupeau de pourceaux, montrant ainsi qu'il préfère le corps de pourceaux à pas de corps du tout. Tous les êtres qui possèdent un corps ont un pouvoir supérieur à ceux qui n'en ont pas. Le diable n'a de pouvoir sur nous que dans la mesure où nous nous lui permettons. Dès l'instant où nous nous révoltons contre quoi que ce soit qui vient de Dieu, le diable prend le pouvoir. Fin de citation. Notre corps physique fait que ce dont nous faisons l'expérience est d'une grandeur, d'une profondeur et d'une intensité qu'il était tout simplement impossible d'atteindre dans notre condition prémortelle. Boyd K. Packer enseignait, je cite, « Notre esprit et notre corps sont unis de telle manière que notre corps devient l'instrument de notre esprit et le fondement de notre personnalité. » Fin de citation. Ainsi, notre relation avec les autres, notre capacité de reconnaître la vérité et d'agir en accord avec elle, et notre aptitude à obéir aux principes et aux ordonnances de l'Évangile de Jésus-Christ sont amplifiées du fait de notre corps physique. À l'école de la mortalité, nous connaissons la tendresse, l'amour, la gentillesse, le bonheur, la tristesse, la déception, la douleur et même des limitations physiques, en sorte que cela nous prépare pour l'éternité. Dit simplement, il y a des leçons que nous devons apprendre et des expériences que nous devons faire, selon la chair, comme il est dit dans les Écritures. Les apôtres et les prophètes ont constamment enseigné l'importance de notre corps dans la mortalité, dans l'éternité. Paul a déclaré, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Dans cette dispensation, le Seigneur a révélé, « L'Esprit et le corps sont l'âme de l'homme. » Une vérité qui est réelle et qui le sera toujours, et que notre corps et notre esprit constituent notre réalité et notre identité. Quand le corps et l'esprit sont inséparablement liés, nous pouvons recevoir une plénitude de joie. Quand ils sont séparés, nous ne pouvons pas recevoir de plénitude de joie. Le plan du Père est conçu pour guider ses enfants, pour les aider à trouver le bonheur, et pour les ramener sains et saufs auprès de lui, avec un corps ressuscité et exalté. Lucifer s'attache à embrouiller les fils et filles de Dieu, à les rendre malheureux et arrêter leur progression éternelle. L'intention générale du Père des mensonges est de nous rendre tous malheureux comme lui, et il s'efforce de pervertir les éléments du plan du Père qu'il haït le plus. Satan n'a pas de corps, et sa progression éternelle a été enrayée. De même que l'eau qui coule dans le lit d'une rivière est arrêtée par un barrage, de même le progrès éternel de l'adversaire a été bloqué, car il ne possède pas de corps physique. À cause de sa rébellion, Lucifer s'est privé de toutes les bénédictions et expériences de la mortalité que rend possible un tabernacle de chair et d'eau. Il ne peut pas apprendre les leçons que seul un esprit incarné peut assimiler. Il ne peut pas se marier ni goûter aux bénédictions de la procréation et de la vie familiale. Il ne supporte pas qu'il y ait une résurrection littérale universelle de toute l'humanité. L'un des sens scripturaires profonds du terme « damné » est illustré par le fait qu'il est incapable de continuer à se développer et à devenir comme notre Père céleste. Le corps physique tient une place si essentielle dans le plan du bonheur et de développement spirituel du Père qu'il n'est pas surprenant que Lucifer tente d'empêcher notre progression en nous tentant d'en faire un usage incorrect. Une des ironies suprêmes de l'éternité consiste à voir l'adversaire, lui-même malheureux, précisément du fait qu'il ne possède pas de corps physique, nous inviter et nous inciter à partager sa misère en faisant mauvais usage de notre corps. L'instrument même qu'il n'a pas et dont il ne peut faire usage, est devenu la cible principale de ses tentatives pour nous attirer vers la destruction spirituelle. L'adversaire tente de nous inciter à faire mauvais usage de notre corps physique et à nous faire minimiser l'importance de ce dernier. Il est important que nous reconnaissions ces deux modes d'attaque et que nous les repoussions. Satan se réjouit quand l'un des enfants de notre Père Céleste fait mauvais usage de son tabernacle physique en violant la loi de chasteté, en prenant de la drogue et des substances qui créent une dépendance, en se défigurant ou en se dégradant, ou en adorant les idoles que sont les images du corps, que ce soit le sien ou celui d'autres personnes, il se réjouit. Pour nous qui connaissons et comprenons le plan du salut, toute profanation du corps est une rébellion, et le reniement de notre véritable identité de fils et de fille de Dieu. Bon, mes frères et sœurs, je ne peux pas citer toutes les façons par lesquelles vous pourriez faire mauvais usage de votre corps, car il y a divers voies et moyens, oui, tant que je ne peux les énumérer. Vous savez ce qui est bien et ce qui est mal, et vous avez la responsabilité individuelle de découvrir par vous-même, par l'étude et aussi par la foi, quelles sont les choses que vous devez faire ou ne pas faire, et les raisons doctrinales pour lesquelles vous devriez ou ne devriez pas faire ces choses. Je témoigne que si vous manifestez le désir d'apprendre ainsi et que vous veillez à vous-même, à vos pensées, à vos paroles et à vos actes, et observez les commandements de Dieu, et continuez dans la foi de ce que vous avez entendu concernant la venue de notre Seigneur jusqu'à la fin de votre vie, vous serez éclairés et protégés spirituellement. Et, selon votre fidélité et votre diligence, vous aurez le pouvoir de discerner la tromperie et de repousser les attaques de l'adversaire quand il vous poussera à faire mauvais usage de votre corps physique. Frères et sœurs, Satan s'efforce également d'inciter les fils et filles de Dieu à minimiser l'importance de leur corps physique. Pas seulement mal utilisé, mais minimisé. Ce type d'attaque est l'un des plus diaboliques et subtils. Je veux donner plusieurs exemples qui montrent comment l'adversaire peut nous pacifier et nous endormir dans une sécurité charnelle et nous pousser à mettre en péril les expériences d'apprentissage terrestre pour lesquelles nous avons poussé des cris de joie dans la préexistence. Par exemple, nous pouvons tous trouver du plaisir à un large éventail d'activités saines, distrayantes et engageantes. Mais nous amoindrissons l'importance de notre corps et compromettons notre bien-être physique quand nous allons à des extrêmes inhabituels et dangereux à la recherche d'une poussée d'adrénaline toujours plus forte et plus enivrante. Nous pouvons chercher à nous justifier en prétendant qu'il n'y a sûrement rien de mal dans de tels exploits et aventures innocents. Cependant, quand nous mettons en danger l'instrument même que Dieu nous a donné pour recevoir les expériences d'apprentissage de la mortalité, pour la seule quête d'un frisson ou d'un supposé amusement, pour stimuler notre amour propre ou pour nous faire accepter, nous minimisons bel et bien l'importance de notre corps physique. Malheureusement, certains jeunes gens et jeunes filles dans l'Église aujourd'hui ignorent les choses telles qu'elles sont réellement et néglige les relations éternelles au profit de distractions numériques, de diversions et de détours dont la valeur ne dure pas. Je suis profondément peiné quand un jeune couple qui a été scellé dans la maison du Seigneur pour le temps et pour toute l'éternité par le pouvoir de la Sainte Prêtrise éprouve des difficultés conjugales à cause des effets de dépendance causés par l'excès de jeux vidéo ou de socialisation en ligne. Un jeune homme ou une jeune femme peut gaspiller des heures incalculables, différer ou perdre une réussite professionnelle ou académique, et au bout du compte, sacrifier des relations humaines qui lui sont chères, à cause de jeux vidéo ou en ligne qui engourdissent la pensée et l'esprit. Le Seigneur l'a déclaré, « C'est pourquoi je leur donne un commandement, tu ne gaspilleras pas ton temps à ne rien faire, et tu n'enterreras pas ton talent pour qu'il ne soit pas connu. » Peut-être vous demandez-vous, mes frères Bernard, vous avez commencé à nous parler de l'importance de notre corps physique pour notre progression éternelle. Êtes-vous en train de dire que les jeux vidéo et les différentes sortes de communication par informatique peuvent jouer un rôle dans le fait de minimiser l'importance de notre corps physique? Frères et sœurs, c'est précisément ce que je suis en train de déclarer. Je vais vous expliquer. Nous vivons à une époque où la technologie peut servir à reproduire la réalité, à l'augmenter et à en créer une virtuelle. Par exemple, un médecin peut utiliser un logiciel de simulation pour acquérir une expérience précieuse dans l'accomplissement d'une opération chirurgicale complexe, sans jamais mettre la vie d'un patient humain en danger. Dans un simulateur de vol, un pilote peut s'entraîner de nombreuses fois aux procédures d'atterrissage d'urgence susceptibles de sauver des vies. Les architectes et les ingénieurs peuvent utiliser des technologies innovantes afin de modéliser la conception et des méthodes de construction sophistiquées qui peuvent faire baisser les pertes de vies humaines et les dommages que subissent les immeubles en cas de tremblement de terre ou de catastrophe naturelle. Dans chacun de ces exemples, un niveau de fidélité élevé dans la simulation ou dans la modélisation contribue à l'efficacité de l'expérience. Le terme « fidélité » indique la similarité entre la réalité et la représentation qui en est faite. Une telle simulation peut être constructive si la fidélité est élevée et si les buts visés sont bons. Par exemple, permettre d'acquérir une expérience qui sauvera des vies ou améliorera la qualité de vie. L'image que vous regardez en ce moment est une restitution informatisée de la salle de scellement du temple de Newport Beach en Californie. Les images du même genre sont utilisées dans le processus de planification et d'agencement de chaque nouveau temple en construction. La restitution donne une représentation des tissus, des meubles, des installations, de l'éclairage, de l'échelle et des proportions afin de montrer l'aspect final de chaque chose. En fait, tout le temple et chacun de ses éléments sont conçus en détail avant que la construction ne commence. La photo qui est affichée dans la partie droite de l'écran est une photo réelle de la salle de scellement du temple de Newport Beach. Remarquez la fidélité de la représentation de la réalité donnée par la restitution en haut, à droite, à gauche, par rapport à la réalité de la pièce finie à droite. L'exemple suivant est un rendu numérique de l'entrée du temple de Copenhague au Danemark. La photo de droite représente l'entrée réelle du temple. Pour chacun de ces exemples, on utilise un haut niveau de fidélité en vue d'accomplir un but très important, la conception et la construction d'un temple beau et sacré. Cependant, une simulation ou une modélisation peut conduire à une infirmité et un danger spirituel si elle est d'une grande fidélité et vise un mauvais objectif, comme le fait de faire l'expérience de choses contraires au commandement de Dieu, ou de nous inciter à penser ou à faire des choses que nous ne ferions pas en d'autres circonstances, sous prétexte qu'il ne s'agit que d'un jeu. J'élève aujourd'hui une voix d'avertissement apostolique concernant l'impact potentiellement étouffant, asphyxiant, inhibant et restrictif de certains genres d'échanges et d'expériences du cyberespace sur notre âme. Les inquiétudes que j'évoque ne sont pas nouvelles. Elles s'appliquent également à d'autres types de médias comme la télévision, le cinéma et la musique. Mes frères et sœurs, dans le cybermonde, ces problèmes sont plus intenses et plus généralisés. Je vous supplie de prendre garde à l'influence des technologies du cyberespace qui engourdit les sens et détruit spirituellement, car celles-ci sont utilisées pour faire une reproduction des choses avec une grande fidélité, tout en servant des desseins dégradants et maléfiques. Si l'adversaire ne réussit pas à nous inciter à faire mauvais usage de notre corps physique, alors l'une de ses plus puissantes tactiques consiste à nous captiver, vous et moi, qui sommes des esprits incarnés, afin de nous déconnecter graduellement et physiquement des choses telles qu'elles sont réellement. En résumé, il nous pousse à penser et à agir comme si nous étions dans notre état prémortel et non incarné. Si nous le laissons faire, il peut astucieusement employer certains aspects de la technologie moderne pour accomplir ses desseins. Faites attention, s'il vous plaît, de ne pas vous absorber dans les pixels, les messages textes, les oreillettes, le twittering, les tweets, les réseaux sociaux en ligne et l'usage des médias de l'Internet pouvant susciter une dépendance au point de ne plus reconnaître l'importance de votre corps physique et de perdre la richesse de la communication entre personnes. Prenez garde aux nombreuses formes d'interactions informatiques qui fournissent des images et traitent des données qui peuvent décaler l'intégralité de vos capacités et de vos expériences physiques. Écoutez attentivement la citation suivante qui décrit la relation romantique intense qu'une femme a eue avec un cyber soupirant. Remarquez de quelle façon le moyen de communication a amoindri l'importance du corps physique. Je cite. Alors, P.F. Slider, pseudonyme de l'homme en question, est devenu ma vie de tous les jours. Tout ce qui était tangible perdait de l'importance. Mon corps n'existait pas, je n'avais ni peau, ni cheveux, ni eau. Tout désir s'était transformé en un courant cérébral qui n'atteignait rien d'autre que mon lobe frontal. La vie à l'extérieur n'existait pas, ni la vie sociale, ni le temps. Il n'y avait que l'écran de l'ordinateur et le téléphone, ma chaise et peut-être un verre d'eau. Fin de citation. Par contraste, nous devons écouter la recommandation de Paul. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Songez encore à l'exemple que j'ai mentionné plus tôt d'un jeune couple marié dans la maison du Seigneur. Un conjoint immature ou mal avisé peut consacrer un temps déraisonnable à jouer à des jeux vidéo, à bavarder en ligne, ou d'autres façons qui permettent au numérique de dominer les choses telles qu'elles sont réellement. Au début, le temps que l'on consacre peut paraître relativement inoffensif, que l'on justifie comme étant quelques minutes dont on a besoin pour se détendre des exigences d'un emploi du temps quotidien intense. Mais on perd des occasions de se développer et d'améliorer ses talents de communication relationnelle, de rire et de pleurer ensemble et de créer un lien d'intimité émotionnelle riche et durable. Progressivement, une distraction apparemment innocente peut devenir une forme pernicieuse d'esclavage. Ressentir la chaleur de la tendre embrassade d'un conjoint éternel ou voir la sincérité dans les yeux d'une autre personne quand l'amour s'exprime, choses qui font toute partie de l'expérience des choses telles qu'elles sont réellement, grâce à l'instrument de notre corps physique, vaut le sacrifice d'une situation imaginaire de haute définition dont la valeur ne dure pas. Si vous et moi ne sommes pas vigilants, nous pouvons perdre toute sensibilité, comme cela a été le cas de l'amant Lemuel dans le passé. Je vais vous donner un autre exemple de déconnexion graduelle et physique des choses telles qu'elles sont réellement. Aujourd'hui, on peut entrer dans un monde virtuel comme Second Life et prendre une nouvelle identité. Un individu peut créer un avatar ou un cyberpersonnage qui se conforme à sa propre apparence ou comportement. Ou bien, cet individu peut se concocter une fausse identité qui n'a aucun rapport avec les choses telles qu'elles sont réellement. Aussi proche que la nouvelle identité prise soit de la personne, ce genre de comportement est la substance des choses telles qu'elles ne sont pas. Plus tôt, j'ai défini la fidélité d'une simulation d'un modèle. Maintenant, je mets l'accent sur l'importance de la fidélité personnelle, sur la relation entre une personne réelle et une cyberidentité empruntée. Vous remarquerez le manque de fidélité personnelle dans le récit suivant qui a été rapporté dans le Wall Street Journal, je cite. Rick Hoogstraat est un homme de 53 ans robuste, avec une longue queue de cheval grise, des pattes épaisses et une moustache poivre et sel en guidon de vélo. Il passe 6 heures par nuit et souvent 14 heures d'affilée les week-ends en tant que Dutch Orenbeek, son identité virtuelle musclée mesurant 2,06 m. Le personnage ressemble à une version de Rick en plus jeune et au physique amélioré. Il reste assis devant son ordinateur, volet baissé, Pendant que sa femme Sue regarde la télévision dans le salon, M. Ogostrad bavarde en ligne avec ce qui paraît être à l'écran une grande rousse mince. Il n'a jamais rencontré cette femme en dehors du monde numérique de Second Life, un univers imaginaire virtuel bien détaillé. Il ne lui a même jamais parlé au téléphone. Mais leur relation a pris une dimension curieusement réelle. Ils ont deux chiens, ils payent ensemble un emprunt immobilier et passent des heures dans leur monde virtuel à faire du shopping et de longues balades à moto. Leur relation est si forte qu'il y a 3 mois, M. Ogostrad a demandé à Jeanette Spielman, la femme canadienne de 38 ans qui est derrière la rouquine, de devenir son épouse virtuelle. Ce n'est pas du goût de la femme à laquelle il est marié légalement. C'est réellement dévastateur, indique Sue Ogostrad, qui est mariée à M. Ogostrad depuis 7 mois. Fin de citation. Mes frères et sœurs, j'espère que vous comprenez, je ne suis pas en train de prétendre que toute technologie est mauvaise par nature, ça n'est pas le cas. Je ne suis pas non plus en train de dire que nous ne devons pas utiliser toutes ces facultés de façon appropriée dans le but d'apprendre, de communiquer, ainsi que d'édifier et d'éclairer des vies, et d'édifier l'Église. Bien sûr que nous le devons, mais je lance l'avertissement que nous ne devons ni gaspiller, ni détruire des relations authentiques parce que nous sommes obnubilés par d'autres qui sont artificiels. Près de 40% des hommes et 53% des femmes qui pratiquent des jeux en ligne déclarent que leurs amis virtuels sont équivalents, voire meilleurs que leurs amis réels. Selon un sondage effectué par un jeune diplômé du 3e cycle de l'université de Stanford, plus d'un quart des joueurs ayant répondu ont indiqué que le moment émotionnel culminant de la semaine précédente a eu lieu dans le monde virtuel, informatique. La définition de la vérité selon le Seigneur à propos des choses telles qu'elles sont réellement est extrêmement importante, constante, opportune. Le prophète allemand a posé la question, ou alors, cela n'est-il pas réel? Il parlait de la lumière et du bien qui étaient tellement perceptibles qu'on pouvait les goûter. En effet, ceux qui demeurent en présence du Père voient comme ils sont vus et ils connaissent comme ils sont connus, ayant reçu de sa plénitude et de sa grâce. Mes frères et sœurs bien-aimés, prenez garde. Dans la mesure où la fidélité personnelle diminue au sein des communications virtuelles et où les buts de telles communications sont déformés, pervertis et iniques, les probabilités d'assister à une catastrophe spirituelle sont dangereusement élevées. Je vous implore de vous détourner immédiatement et définitivement de tels endroits et de telles activités. Je vais maintenant aborder une autre caractéristique des attaques de l'adversaire. Satan offre souvent une illusion séduisante de l'anonymat. Lucifer a toujours cherché à accomplir son œuvre en secret. Souvenez-vous, cependant, que l'apostasie n'est pas anonyme simplement parce qu'elle se produit dans un blog ou au travers d'une identité fabriquée dans un lieu de conversation ou dans le monde virtuel. Les pensées, les paroles et les actions immorales sont toujours immorales, même dans le cyberespace. Des actes malhonnêtes sous couvert d'une soi-disant discrétion, comme le téléchargement illégal de musique sur Internet ou la duplication de CD ou DVD pour des amis ou des parents, restent pour autant malhonnêtes. Nous devons tous rendre compte à Dieu, et à la fin, nous serons jugés par lui selon nos actes et les désirs de notre cœur. Car un homme est tel que sont les pensées de son âme. Le Seigneur sait qui nous sommes réellement, ce à quoi nous pensons, ce que nous faisons vraiment et ce que nous devenons réellement. Il nous a avertis que les rebelles seront transpercés d'un grand chagrin, car leurs iniquités seront publiées sur les toits et leurs actions secrètes seront révélées. Je n'ai dénoncé que quelques-uns des risques spirituels de notre monde, qui est axé sur la technologie et qui change rapidement. Je répète, ni la technologie ni les mutations rapides ne sont bonnes ou mauvaises en elles-mêmes. La véritable difficulté est de les comprendre toutes les deux dans le contexte du plan éternel du bonheur. Lucifer vous poussera à faire mauvais usage de votre corps physique, ayant minimisé l'importance. Il essaiera de remplacer l'infinie variété des créations de Dieu par la monotonie des répétitions virtuelles et de nous convaincre que nous sommes de simples choses mortelles sur lesquelles on agit au lieu d'être des âmes éternelles dotées du libre arbitre afin d'agir par nous-mêmes. D'une manière sournoise, il incite notre esprit incarné à délaisser les bénédictions et les expériences instructives selon la chair qui ont été rendues possibles grâce au plan du bonheur du Père et à l'expiation de son Fils unique. Pour votre bonheur et votre protection, je vous invite à étudier avec plus de diligence la doctrine du plan de salut et à méditer dans la prière sur les vérités que nous venons d'énoncer. Je vous soumets deux questions à examiner dans votre méditation personnelle et dans l'étude que vous ferez dans la prière. Première question, est-ce que l'usage des diverses technologies et médias favorise ou entrave la compagnie constante du Saint-Esprit dans ma vie? Deuxième question, est-ce que le temps que je passe à utiliser ces diverses technologies et médias développe ou restreint ma capacité de vivre, d'aimer et de rendre service de façon significative? Je vous promets que vous recevrez des réponses, vous recevrez l'inspiration et les instructions du Saint-Esprit adaptées à votre situation et à vos besoins. Je réitère et réaffirme l'enseignement du prophète Joseph. Je cite, « Tous les êtres qui ont un corps ont du pouvoir sur ceux qui n'en ont pas. Le diable n'a de pouvoir sur nous que dans la mesure où nous ne lui permettons. » Fin de citation. Ces vérités éternelles sur l'importance de notre corps physique vous fortifieront contre la tromperie et les attaques de l'adversaire. Un de mes désirs les plus profonds en ce qui vous concerne est que vous ayez un témoignage et une appréciation sans cesse grandissant de la résurrection, oui, de votre propre résurrection dans un corps céleste et exalté, à cause de votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, selon la promesse. Je vais maintenant vous parler précisément de ce que vous êtes réellement. Vous êtes réellement la génération montante de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. En octobre 1997, Neil A. Maxwell s'est rendu à l'université de Brigham Young en Idaho pour s'exprimer lors d'une veillée spirituelle. Au cours de la journée qu'il a passée sur le campus, nous avons parlé de divers sujets portant sur l'Évangile en général et sur la jeunesse de l'Église en particulier. Je me souviens d'une déclaration de frère Maxwell qui m'a grandement marqué. Voici ce qu'il a dit, je cite, « La jeunesse de cette génération possède une plus grande capacité d'obéissance que toutes celles qui l'ont précédée. » Fin de citation. Puis il a indiqué que sa remarque était fondée sur une vérité enseignée par le président George Buchanan, je cite, « Dieu a réservé des esprits pour cette dispensation qui ont le courage et la détermination d'affronter le monde et tous les pouvoirs du malin, visibles ou invisibles, afin de proclamer l'Évangile, de soutenir la vérité, d'établir et d'édifier la Sion de notre Dieu sans crainte des conséquences. Il a envoyé ses esprits dans cette génération pour poser le fondement de Sion qui ne sera plus jamais renversé et pour élever une postérité qui sera juste, qui honorera Dieu et le fera suprêmement et lui sera obéissante en toutes circonstances. » Fin de citation. Frères et sœurs, les parents et les dirigeants de l'Église insistent fréquemment sur l'idée que les jeunes gens et les jeunes filles de cette génération ont été réservés pour cette période de l'histoire du monde et font partie des enfants les plus vaillants de notre Père céleste. En effet, de telles déclarations sont vraies. Mais je me suis souvent demandé si, à force de les entendre, ces paroles ne deviennent pas éculées et banales, au point que leur importance et leurs implications profondes ne soient négligées. Nous savons que l'on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Les enseignements du président Cannon et de frère Maxwell nous aident à comprendre plus pleinement ce qui est requis de nous aujourd'hui. Vous et moi devons être vaillants et obéir au Seigneur en toutes circonstances. Par conséquent, l'obéissance est l'arme principale sur laquelle la génération montante doit compter dans la bataille des derniers jours entre le bien et le mal. Nous nous réjouissons que le Seigneur ait, par l'intermédiaire de ses serviteurs autorisés, élevé la barre pour les jeunes gens et les jeunes filles d'aujourd'hui. Sachant qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici sur terre, il est bienvenu et appréciable de bénéficier d'une telle direction inspirée. Nous devrions être conscients que Lucifer s'efforce sans cesse d'abaisser la barre en nous incitant à faire mauvais usage de notre corps physique ou d'en minimiser l'importance. Le Seigneur nous a avertis à maintes reprises de prendre garde à la tromperie de l'adversaire. Et Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car en ces jours-là, il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus, qui sont les élus selon l'Alliance. Et quiconque garde précieusement ma parole ne sera pas séduit. » L'obéissance ouvre la porte qui permet d'avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Et les dons et les talents spirituels activés par le pouvoir du Saint-Esprit nous permettent d'éviter la tromperie et de voir, de sentir, de savoir, de comprendre et de nous rappeler les choses telles qu'elles sont réellement. Vous et moi avons été dotés d'une plus grande capacité d'obéissance exactement pour ces raisons. Moroni a déclaré, « Écoutez les paroles du Seigneur et demandez au Père, au nom de Jésus, ce dont vous avez besoin. Ne doutez pas, mais croyez, et commencez comme dans les temps anciens, et venez au Seigneur de tout votre cœur, et travaillez à votre salut avec crainte et tremblement devant Lui. » Ayez de la sagesse pendant les jours de votre épreuve. Dépouillez-vous de toute impureté. Ne demandez pas afin de dépenser pour vos passions, mais demandez avec une fermeté inébranlable afin de ne céder à aucune tentation, mais afin de servir le Dieu vrai et vivant. En écoutant ce conseil inspiré, nous recevrons assurément la bénédiction de reconnaître et de repousser les attaques de l'adversaire aujourd'hui et pour les jours à venir. Nous pourrons remplir et remplirons assurément les responsabilités auxquelles nous avons été préordonnés et contribuerons à l'œuvre du Seigneur dans le monde entier. Je témoigne que Dieu vit et qu'il est notre Père céleste. Il est l'auteur du plan de salut. Jésus est le Christ, le Rédempteur, dont le corps a été meurtri, brisé et déchiré pour nous, quand il s'est offert en sacrifice expiatoire. Il est ressuscité, il vit et se tient à la tête de son Église dans ses derniers jours. Mes frères et sœurs bien-aimés, être enserré éternellement dans les bras de son amour sera une réalité et non une expérience virtuelle. Je témoigne que nous pouvons être et que nous serons bénis en recevant le courage, la détermination pour faire face au monde et à tous les pouvoirs du malin. La justice prévaudra. Aucune main impure ne peut arrêter le progrès de cette œuvre. Je rends témoignage des choses telles qu'elles sont réellement et telles qu'elles seront. Au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.